Eugène Mouton, La Vénus de Milo. Ce soir-là, j'avais cru devoir aller au bal de l'opéra pour me divertir et je m'y divertissais de tout mon cœur. Si bien que, dans le feu d'une conversation vive et animée avec un domino plein d'entrain et de promesses, ayant fait le moulinet de mon bras droit à l'effet de peindre éloquemment la violence de mon amour naissant, je fis tomber le chapeau d'un jeune homme qui était à droite et un peu en arrière de moi. « Maladroit !» cria une voix dont le timbre ne sembla peu d'accord avec le caractère masculin de la coiffure que je venais de voir tomber. Je me retournai et, me confondant en excuses, je ramassai respectueusement le chapeau et l'offris au jeune homme, lequel n'était autre qu'une jeune et jolie femme, et qui ne pouvait guère s'en cacher sous le pantalon collant, le gilet à cœur et l'habit noir qui moulait de leur ébène les blancheurs cachées d'un corps de Vénus. L'inconnu rayonnait d'un tel éblouissement de beauté que je demeurai bouche béante, l'air fort bête, ainsi que je l'ai su depuis, et lui tendant son chapeau dans une posture de suppliant. Un peu renversée sur la hanche, la tête en arrière, elle me regardait, ou plutôt me toisait par-dessus son épaule de l'air le plus dédaigneux du monde. Elle avait assemblé ses pieds et tenait ses deux mains dans les poches de son pantalon. On aurait dit un jeune duelliste prêt à lancer un cartel. Le cou, le tour du visage et le front étaient d'une beauté incomparable. Une forêt de cheveux blonds, cuivrés, mal contenu par quelques petits peignes ou quelques épingles qu'on voyait surgir çà et là sous les débordements de cette cascade, avait été enroulé de manière à imiter le mieux possible une coiffure d'homme. Mais la chute du chapeau avait dérangé cet artifice, et d'épaisses torsades s'étaient échappées de toutes parts, comme un fleuve d'or qui aurait rompu ses digues. Une boucle, entre autres, tombait sur le front et voilait entièrement un de ses beaux yeux. Ils étaient noirs, ses yeux, et dardaient une flamme dorée qui me fascinait. Mais ce qui était le plus extraordinaire encore, c'était la taille de l'inconnue. Elle n'était nullement maigre, et pourtant, je ne me souvenais pas d'avoir jamais rien vu d'aussi fin, d'aussi mince, d'aussi long. Aussi, à force de la considérer, je finis par m'écrier: « Oh, le serpent !» me dit-elle d'un ton surpris. « Je ne sais ce que cela signifie. »« Mais oui, le serpent, il n'y a qu'une femme au monde faite comme cela. » Le serpent était un modèle que bien des artistes connaissent et qu'on avait surnommé ainsi à cause de la merveilleuse finesse de son corps. « Eh oui, répétai-je, je te connais, c'est toi qui as posé la Léda de... »« Modèle ?» s'écria l'inconnu d'un air piqué. « Mais, madame, repris-je un peu décontenancé, ce que je dis ne doit pas vous blesser, et prouve tout au plus combien je vous trouve belle. »« Allons, dit-elle, moins fâchée, je veux bien vous pardonner, mais il faut réparer votre maladresse. » « Vous allez me remettre mes cheveux en place et mon chapeau sur la tête. » Et me désignant des yeux une banquette dans un coin sombre du couloir, elle y alla, s'assit, et se penchant en avant, me tendit son front. Je tenais toujours à la main le chapeau de la dame qui m'embarrassait, car j'avais de plus en honte de garder le mien devant elle, à mesure que l'admiration s'emparait de moi. Je finis par l'ôter, de sorte que je me trouvais un chapeau à chaque main, faisant avec ces deux couvre-chefs une pantomime désolée, où l'embarras, la surprise et l'amour s'entrecroisaient en paraboles incohérentes. Elle riait. « Eh bien, posez-là ces deux chapeaux, voyons, et arrangez-moi les cheveux. »« Madame, lui dis-je en ôtant vivement mes gants, je vous obéis parce que je ne connais que ma consigne, mais... je réclame d'avance toute votre indulgence, un homme étant plus exercé à défaire ses sortes d'ouvrages que les rétablir. Bon, je sais que vous êtes tous aussi fins les uns que les autres. C'est bien, je vous donne carte, acte de ce que vous n'êtes pas coiffeur. Ce qui est fâcheux, mais prenez garde à ce que vous allez faire. Ne comptez sur aucune indulgence, je vous en avertis. Au reste, ce que j'attends de vous est fort simple. Vous voyez bien cette boucle qui me pend sur le front. Relevez-la d'un de vos doigts, bien. Maintenant, fixez-la avec une épingle. Mais madame, il n'y en a pas. Attendez, dit-elle en se renversant et en étalant sa poitrine. Mettez la main dans la poche de côté de mon habit, là. Prenez ce petit porte-cigarette. Ouvrez-le. Il y a des épingles à cheveux. J'obéis. Je prenais courage. Avec une délicatesse de femme de chambre et suivant mot à mot les ordres de l'inconnu, je réussis tant bien que mal à réprimer les révoltes des boucles les plus utines, et les mains me tremblaient lorsque j'eus mené à bien, à travers ce torrent d'or parfumé, l'entreprise la plus charmante qu'un mortel ait jamais pu rêver d'accomplir. Elle se tourna vers une glace, sourit d'un air moqueur, haussa les épaules et, me regardant la tête un peu penchée, « Pauvre garçon, vous avez encore à travailler avant de devenir un bon coiffeur. Mais enfin, vous y avez mis de la bonne volonté, de la soumission. J'aime la soumission. » Elle prit en disant cela un air de reine. « Maintenant, continua-t-elle, remettez-moi mon chapeau. » Non, pas ainsi, plus sur le front, et droit, et non pas bêtement en arrière, comme le mettent les fablettes qui n'ont pas l'habitude de costumes d'homme. Je lui mis son chapeau, elle me fit un signe de tête, me dit merci et se perdit dans la foule.
Tout cela s'était passé en moins de temps que j'en ai mis à vous le dire, et l'inconnu était loin avant que j'eusse eu le temps de me rendre compte de la stupéfaction où cette scène étrange m'avait plongé. Ma tête se perdait en conjectures, plus insensées les unes que les autres, pour deviner ce que pouvait être cette femme et quelle raison elle avait eue pour agir à mon égard d'une façon aussi fantastique. Dès que j'ai repris mon sang-froid, rassemblant dans un seul élan tout ce que le plus furieux désir peut donner de force et de volonté à un homme, je me précipitai à la recherche de l'inconnu, et pendant 4 heures, bousculant et renversant tout sur mon passage, je labourais la foule de mes coudes, de mes épaules et de mes reins, montant et descendant les escaliers, courant dans les couloirs, m'introduisant dans les loges, enfin ravageant tout comme un hippopotame échappé. Vous devinez que je ne trouvais rien, en pareil cas, c'est de règle. Vers 6 heures du matin, par une jolie petite neige fondante, agrémentée de grésil et rafraîchie de quelques bouffées d'un vent glacial, je rentrai piteusement chez moi. Commissionnaire, porteur d'eau, concierge, agence de renseignement, pendant un mois, je mis tout en œuvre pour découvrir le nom et la demeure de l'inconnu. J'en serais encore là, si, m'étant enfin avisé de retourner au bal de l'opéra, je me fusse trouvé tout à coup vis-à-vis d'elle. Elle vint à moi en souriant. Elle était en habit noir et en cravate blanche, comme la première fois. Comme la première fois, elle avait les mains dans les poches de son pantalon. Je lui demandai de prendre mon bras. Oh non, je n'ai jamais pris le bras de personne, me dit-elle d'un ton singulier. Marchons ensemble un moment. Si vous voulez, nous irons nous asseoir, car je suis fatiguée. Au bout d'un ou deux tours de foyer, nous nous assîmes dans un couloir. La conversation, de mon côté, prit vite le chemin de l'amour et je ne tardai pas à essayer de lui toucher la main, mais à chaque fois, elle se levait d'un air fâché et finit par me dire que si je continuais, elle s'en irait. Et pendant tout ce temps, quoi que je pusse faire ou dire, elle ne cessa de garder, comme toujours, les mains dans ses poches. Nous restâmes là fort longtemps, moi lui contant 1000 folies, elle m'écoutant d'un air de curiosité et ne répondant que quelques mots. Ses mains si obstinément cachées me mettaient la tête à l'envers et je voyais clairement qu'elle devait jouer quelque rôle mystérieux dans la vie de cette femme, mais je n'ai jamais osé l'interroger à ce sujet. Je n'y fis donc aucune allusion. Je ne laissais voir rien qui pût trahir ma curiosité dévorante. Et après avoir déployé une stratégie d'ailleurs peu difficile en ces sortes de rencontres, j'obtins enfin au nom d'une redresse avec rendez-vous pour le lendemain à 2 heures. Un épisode de ce genre, surtout lorsqu'il se passe au bal de l'opéra, marque ordinairement la fin du roman. Et j'avoue que, cette fois comme bien d'autres, dès que je me vis en possession du nom et de l'adresse que je cherchais palpitant de jour d'une ardeur si furieuse, je commençais de considérer la situation d'un œil plus calme. Je supputais mentalement le nombre probable de semaines que devait durer mon bonheur. Nous étions en février, je partais pour la campagne en avril. Je faisais donc acte de sagesse en me demandant si un seul bond de fatalité pouvait me porter jusque-là. Le lendemain, 2 heures sonnant, je sonnais à la bienheureuse porte. Une femme de chambre me fit traverser un corridor, un salon, et me laissa seul dans un fort aimable boudoir, où quelques minutes après je vis apparaître mon inconnue. Elle était encore en homme, seulement elle avait une espèce de costume d'atelier, veston et pantalon de velours nacara, cravate blonde et les pieds nus dans des abouches orientales. Toute singulière que fût une pareille toilette, elle faisait ressentir avec toutes sortes d'avantages la tournure sans pareille de la femme qui la portait. Quant au visage, il était, par la longueur et la finesse des traits, d'un type tout à fait inconnu et merveilleusement séduisant. Cette beauté, ce costume et les souvenirs de ce qui s'était déjà passé entre nous me mettaient dans un trouble d'autant plus étrange que la dame, cette fois encore, avait les deux mains dans les poches de son pantalon et se recula vivement en arrière lorsque, par un mouvement tout naturel, je lui tendis les mains en entrant. Elle me fit asseoir, nous causâmes beaucoup. La conversation prenait un tour de plus en plus tendre. Tout en me répondant avec une grâce assez conciliante, la dame paraissait gênée et combattue entre des sentiments contraires. Enfin, comme si elle eût pris son courage à deux mains, elle rougit, baissa la tête et me dit « Voulez-vous avoir la bonté de me donner un verre d'eau sucrée ? Là, sur cette table, un seul morceau de sucre et quelques gouttes de citron. » Ayant préparé le verre, je le lui présentai sur un plateau d'argent que j'avais trouvé sur la table. Elle me jeta un regard d'une inexprimable tristesse et me dit « Donnez-moi à boire, je ne puis boire seul. » J'approchai le verre de ses lèvres. Elle but comme un oiseau à petits coups, m'envoyant à chaque fois un regard de remerciement. Puis, quand elle eut fini, elle m'indiqua d'un signe de tête un petit mouchoir de batiste bordé de dentelle qui était sur une table tout près, et me tendant sa bouche adorable, elle me dit « Essuyez-moi les lèvres !» J'obéis avec le plus vif empressement, et je serais encore à caresser du mouchoir ses lèvres purpurines si la dame ne m'avait arrêté par un remerciement en me priant de me mettre sur un pouf qui était à une distance assez respectueuse du divan où elle était assise. « Il est temps, me dit-elle, de vous avouer une triste vérité que vous avez déjà sans doute devinée. Je voudrais fermer les yeux, madame, à l'idée qu'une aussi belle personne que vous puisse ait le malheur. Mais enfin, puisque vous croyez le moment venu de me dévoiler l'énigme de ce bras toujours immobile, j'avoue qu'il me tarde de sortir de cette angoisse. » « Oh, c'est une véritable angoisse, je vous jure. » C'est-à-dire, non, pardon, madame, mais tout est si étrange, si inexplicable en vous. Et puis l'amour, la surprise, l'inattendu. « Oh, je ne sais si vous m'aimez réellement, » me répondit-elle. « Mais il suffit que vous le disiez pour que je doive vous avertir. Je ne suis pas telle que vous croyez me voir. Je suis un monstre au milieu de l'espèce humaine. Je suis né sans bras. » Et à ces mots, défaisant avec ses dents un lacet caché derrière le nœud de sa cravate de blonde, elle se leva toute droite, et son veston de velours, se détachant de ses épaules, tomba sur le divan avec les deux masses inertes qui figuraient les bras. Comment vous décrire le buste étrange qui, serré dans un gilet de velours nacara, se dressait comme une colonne vivante surmontée d'une tête divinement belle. Ébloui, muet de surprise, je me sentais emporté dans un tourbillon d'idées au milieu desquelles je ne pouvais me reconnaître, puisque tout y était étranger au monde réel. Je perdis absolument la tête, et poussant des hurlements qui n'avaient plus rien d'humain, je me précipitais sur ce monstre avec des intentions qui, comme bien vous pensez, n'avaient rien de meurtrier. Elle m'attendait. Enroulé sur lui-même, ce corps sans bras, long et menu, avait l'air d'un serpent. Avant que je ne fusse arrivé à elle, elle s'était dressée et m'administrait sur la joue de son pied déchaussé un soufflet qui m'envoya rester enroulé dans un coin. « Lâche, me dit-elle, vous croyez pouvoir abuser de votre avantage. Je ne vous crains pas, entendez-vous. Et si vous osez encore faire mine seulement de vous approcher de moi, vous en ferez repentir. » Le soufflet que je venais de recevoir ne m'avait pas calmé. Au contraire, j'étais furieux, et de plus, cette résistance ne faisait que m'enflammer davantage. « Mon soufflet vaut un baiser, lui dis-je, et je l'aurai, le baiser. » La scène qui suivit fut indescriptible. En vérité, je ne conçois pas comment je n'en suis pas devenu fou. J'essayais de m'élancer sur cette fantastique créature. Tout ce que la gymnastique, l'escrime, la savate et la chorégraphie peuvent déployer d'adresse, de violence et de ruse n'est rien en comparaison des sauts de carpe, des cabrioles, des écarts, des feintes que ce corps indescriptible exécuta autour de moi. Elle tournoyait en l'air, elle roulait sur le tapis, elle rebondissait contre les murailles, avec une si prodigieuse rapidité que je ne pouvais pas une fois même l'effleurer de mes mains. Et chaque fois que dans ses bonds vertigineux, elle passait à portée de moi, elle me lançait un effroyable coup de pied. J'en avais tant reçu que je ne les comptais plus. À mesure que cette lutte trop inégale se prolongeait, je sentais mes forces s'en aller, et aussi, vous l'avouerai-je, mon courage. Ces coups me faisaient mal, mais de plus ils me faisaient peur. Et puis ce corps rouge qui passait et repassait devant mes yeux, ces cheveux d'or qui flottaient en fureur, ces yeux noirs qui lançaient des éclairs, tout cela me donnait le vertige. À un moment, près de succomber, je voulus essayer de la ruse. Je me mis subitement à genoux, espérant la saisir par les jambes au moment où elle s'approcherait de moi. Mais je l'avais deviné, et avant que j'eusse eu le temps de me relever, elle avait passé derrière moi, et sautant à cheval sur mes épaules, elle me serra le cou entre ses cuisses. « Ah ah !» me dit-elle, « vous voulez faire le méchant. Je n'ai qu'à serrer les jambes pour vous étouffer, comme vous voyez. » Je voulus faire un mouvement pour la renverser. « Prenez garde !» dit-elle en s'approchant sa bouche de mon oreille. « Je mords !» Je demeurais quoi, tremblant de tous mes membres. À la bonne heure, dit l'étrange créature en desserrant un peu les jambes qui m'étranglaient. Maintenant nous pouvons traiter. Voulez-vous me donner votre parole d'honneur que vous ne recommencerez plus? Vous voyez d'ici le tableau. Je n'avais pas deux parties à prendre. Je sentais bien que j'étais un homme perdu si j'essayais de prolonger la lutte. Incomparablement plus honteux que le renard qu'une poule aurait pris, je fis des serments si épouvantables, j'exprimais mon repentir avec tant de bassesse, je m'excusais si éloquemment sur la beauté irrésistible, trop irrésistible hélas, de ma cavalière, qu'elle consentit enfin à mettre pied à terre. J'étais fort penaud. Je n'osais pas bouger. Et je restais à genoux, lui lançant de côté des regards où j'essayais de mettre autant d'amour que de respect.
« Bien vrai ?»
me dit-elle en se penchant sur moi et en me regardant entre les deux yeux avec un sourire d'enfant.
« Allons, je vous pardonne. Venez vous asseoir à côté de moi. »
Elle me raconta son histoire. Elle était orpheline. À la mort de ses parents, un oncle indigne avait essayé de s'approprier sa fortune, croyant avoir bon marché d'un pauvre être si peu en état de se passer le secours d'autrui. Après avoir souffert en silence, elle s'était révoltée. Et alors, comprenant qu'il lui fallait suppléer à tout prix au bras qui lui manquait, elle s'était exercée à se servir de ses pieds. Et à force de volonté, elle était parvenue à s'en faire des mains, d'une habileté merveilleuse. Elle me montra des broderies, des dessins, des airs notés, des cahiers manuscrits, le tout exécuté avec ses pieds. Elle m'expliqua comment, à raison de l'usage continuel qu'elle en avait fait, ses jambes étaient devenues pour elle de véritables bras, d'où, pour les avoir plus libres, la nécessité de porter presque toujours un costume d'homme. Et ce costume, à son tour, lui avait donné de la hardiesse et du goût pour les exercices d'agilité auxquels elle était presque réduite, car elle sortait fort peu, le soir seulement, craignant toujours que quelque accident ne vint à révéler son infirmité en public. « En somme, me dit-elle, je suis arrivée à tirer bon parti de cette vie qui aurait dû être si misérable. Je lis, j'écris, je chante, je danse, je nage même. » J'avisai dans un coin du salon, attenant au boudoir, quelque chose qui ressemblait à un piano. « Est-ce que vous joueriez du piano ?» m'écriai-je en ouvrant de grands yeux. « Un peu, me dit-elle. Venez au salon que je vous joue quelque chose. » Elle sauta sur un tabouret au haut de 5 pieds, et de son orteil, ouvrant la clé du piano, elle fit rouler avec ses doigts de pied un brillant prélude du haut en bas de l'instrument. Elle me joua une marche. Jamais vous n'avez rien entendu de pareil. Puis un galop de cheval arabe. Et tout à coup, passant par un accord rapide à la ritournelle d'une romance, elle commença d'une voix frémissante. « Viens dans mes bras !»